Pour en savoir plus, on va donc rejoindre Jagisin qui se retrouve actuellement quelque part dans les territoires occupés. Alors, Jagi est avec moi au bout du fil. Bonjour, Jagi.
Salut, Roberto.
Oui, alors, peux-tu me raconter exactement qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on s'est parlé hier et hier, tu étais en Israël. Aujourd'hui, tu es où exactement et qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures?
Actuellement, je suis dans un village, pas un village, une petite ville qui s'appelle Beth Sarro. C'est juste à côté de Bethléem et c'est 20 minutes sud de Jérusalem. Mais la chose importante, c'est que Beth Sarro, c'est dans les territoires occupés de Palestine, c'est dans le Cisjordanie. Alors, j'ai brisé la condition de le cours d'Israël qui m'empêche d'entrer les territoires occupés. Comme j'ai dit plusieurs fois, je pense pas que c'est le pays qui fait l'occupation qu'il faut déterminer qui peut entrer les territoires occupés. C'est plus les personnes ici. Et j'ai reçu une invitation des militants ici en Palestine qui sont impliqués avec le mouvement de solidarité internationale. Cette invitation était renouvelée même après la décision de la Cour d'Israël. Alors aujourd'hui, avec un groupe de 7 Suédois que j'ai utilisé comme une distraction, moi, j'ai passé des points de contrôle juste sud de Jérusalem et j'ai entré les territoires occupés. Bethléem et puis ici à Beth Sarro.
Alors, explique-moi exactement comment ça s'est passé, parce que tout le monde s'imagine ici que c'est tous des points de contrôle de l'armée. Est-ce qu'ils t'ont contrôlé et quels sont les risques aussi maintenant pour toi?
Mais d'abord, pour répondre à la deuxième question, la risque, c'est simple, c'est si les polices ou l'armée israélienne veut m'arrêter, ils peuvent, et ils peuvent dire que j'ai brisé ma condition, ils peuvent commencer la procédure de déportation. Ils peuvent même me déporter tout de suite, on ne sait jamais. Alors, ma situation, c'est un peu ambiguë, et pas ambiguë, mais c'est clair, je n'ai pas le droit, selon les Israéliens, d'être ici. Mais l'autre côté de ça, c'est que je suis reçu, je suis accueilli par des militantes palestiniennes ici. Je reste avec des Palestiniennes. Je travaille dans les bureaux des groupes palestiniens. Alors, on voit les deux différents côtés de la réalité apartheid d'Israël. Alors, voilà. En ce qui concerne le point de contrôle, c'est la première fois dans ma vie que j'ai passé un point de contrôle. Je suis sûr que chaque fois, c'est différent pour différentes personnes, dans différents contextes. Mais cette fois, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. C'était plus ou moins tranquille. Mais j'étais obligé, comme le reste des personnes, de débarquer de le taxi, de passer devant des soldats. Ils ont gardé le passeport. Ils ont juste vu pour voir que le passeport de la personne, la photo de passeport corresponde avec la personne devant eux. Après ça, j'ai passé. Et voilà, c'est tout. Il faut pas oublier que on a une impression de les forces israéliennes comme une armée incroyable, etc. Et c'est sûr qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'armes. Mais sur le terrain, surtout dans les territoires occupés, les soldats sont des personnes de 18, 19, 20, 21 ans. Des hommes très jeunes, qui sont pas nécessairement les personnes les plus intelligentes dans le monde. Ça, c'est la nature de l'occupation. Alors, voilà, j'ai passé, c'était pas un problème. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours.
Jaggi, c'est Patrick ici. Dis-moi, est-ce que les autorités les autorités israéliennes, pardon, savent que que t'es passé aux territoires occupés?
D'abord, salut Patrick.
Salut. Salut.
Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense qu'ils vont savoir
Tôt, hein?
bientôt parce que avec l'interview que je fais avec vous, avec l'interview avec CKUT, avec certains médias au Canada, je pense que ça va passer bientôt en Israël. Mais je pense qu'ils vont savoir surtout dans quelques jours parce qu'une de mes conditions, c'est qu'il faut que je dis aux Israéliens 48 heures avant le 23 décembre où je suis parce qu'il faut que je quitte le pays le 23. Alors, ils vont savoir bientôt.
Puis est-ce que tu as l'intention de rester après le 23 aussi, de ne pas bouger, de continuer à rester, à rapporter?
Mes intentions, quand je suis venu ici, c'est de rester jusqu'à le début de janvier.
Oui.
Alors, je vais continuer mes plans. peut-être je vais être déporté avant, mais je vais continuer de rester ici jusqu'à le début janvier.
Mm-hmm. Et explique-nous maintenant quelle est la situation, qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Mais je vais participer et observer les actions de le mouvement de solidarité internationale. Il y a deux projets en particulier où je vais observer et s'impliquer. Un, c'est les activités de Noël ici près de Bethlehem, parce qu'il y a toujours des problèmes ici. Il y a des Palestiniennes qui demandent leur droit de passer de Bethlehem à Jérusalem. Peut-être cette année, il y a certaines personnes qui vont essayer de faire des actions des événements civils et essayer de passer des points de contrôle. Pas comme moi, où j'ai fait ça normal, mais ils vont passer malgré les ordres des soldats. Alors, ça va passer le 24, 25, 26 janvier ici à Beth-Sahoua et aussi à Bethlehem. Mm-hmm. Mais aussi, les Israéliens sont en train de construire un mur qui va diviser les territoires occupés d'Israël propre. C'est un mur de 8 mètres, un mur qui est dans le territoire occupé. C'est pas même sur la frontière comme telle, mais c'est dans quelques milles dans le territoire occupé. Et il y a des membres du mouvement de solidarité internationale, surtout dans une région qui s'appelle Qaqilia, dans le nord de Palestine, dans le territoire occupé, qui va essayer de faire des actions des événements civils contre cette mur. Une mur qu'ils appellent ici le mur d'apartheid. Alors ça, c'est deux actions que je vais voir. Mais aussi, je suis en train d'expérimenter la réalité de personnes ici. Quand je dis expérimenter, pas moi-même, parce que j'ai toujours le droit de retourner au Canada, mais je jase, je parle avec les Palestiniennes ici. J'ai passé la plupart de la journée ici à Beth-Sahour de parler avec les Palestiniennes qui militent ici à Beth-Sahour. Mm-hmm. Il y a un symbole de résistance aussi depuis le premier intifada. Mm-hmm. C'est ici où ils ont fait la résistance de taxes, c'est-à-dire le monde ici, plus de 10 000 personnes ont refusé de payer leurs taxes. J'ai parlé surtout avec des jeunes, parce que quand j'ai dit le mouvement de solidarité internationale, c'est dirigé par les Palestiniennes, c'est surtout dirigé par les jeunes Palestiniennes, les hommes et les femmes de 19, 18, 20 ans, et ils ont me décrire leur réalité. C'est une réalité incroyable. Et j'espère de trouver quelqu'un qui peut parler français. Et peut-être dans les prochaines semaines, vous pouvez avoir des rapports directs avec les voix des Palestiniens eux-mêmes.
Oui. Peux-tu nous donner une idée là des différents mouvements palestiniens? Justement, tu as parlé un peu des jeunes qui sont impliqués. Quelles sont les actions qu'ils entreprennent et quelle est la différence entre la vision dans les mouvements?
Mais tout le monde, je pense, a une certaine idée qu'il existe l'autorité palestinienne, le Yasser Arafat, qui est perçu comme corrompu, mais quand même, c'est l'autorité séculaire. Puis il y a les mouvements islamistes, comme Jihad et Hamas. Et puis on a des groupes communistes, comme le Parti pour la libération de Palestine. Le Front populaire pour la libération de Palestine. Mais tout ça, c'est un mélange, parce qu'il y a la résistance. Et des fois, le parti, c'est pas important, c'est la résistance. Et il faut dire une chose, la résistance, c'est une chose quotidienne pour les personnes. Quand quelqu'un met un graffiti, quand quelqu'un met des affiches, quand quelqu'un essaie de traverser un point de contrôle, quand les personnes brisent un couvre-feu, parce que moi, je suis maintenant dans une situation de couvre-feu ici à Beth-Sahour. Le monde ne peut pas quitter leur maison pendant la journée, etc. Ça, c'est des actes de résistance. Et ce que le mouvement de solidarité internationale essaie de faire, c'est de généraliser la résistance, d'avoir une résistance civile où tout le monde participe. Alors, c'est sûr, il y a des divisions et moi... Je connais un peu la division, c'est sûr que je ne connais pas toutes les complexités, mais la chose plus importante de souligner, c'est qu'il y a une résistance quotidienne des Palestiniennes chaque jour. Mm-hmm. Et ça, c'est pas, on n'appelle pas ça Jihad ou Hamas ou PFLP ou Fatah ou Tanzim, c'est juste la résistance, point. Et ça, c'est l'intifada. Et bien sûr, il y a des divisions internes, différentes visions, les islamistes contre les séculaires, les autorités palestiniennes contre la base, mais finalement, on a une résistance.
Il y a une situation assez particulière aussi dont tu faisais état dans tes dernières dépêches. C'est ces gens-là qui font face à la déportation. Quand tu étais à Jérusalem, tu nous envoyais une dépêche il y a 2 jours. Tu nous rapportais le cas d'un ouvrier palestinien qui avait été arrêté et puis qui est maintenant en détention depuis 6 mois et qui fait face à la déportation parce qu'il est marié avec une Jordanienne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation de ces gens-là?
Oui, oui. Quand on parle de la colonisation, on peut parler de le mur d'apartheid, on peut parler de les couvre de feu, on peut parler de les expulsions en masse, mais il y a aussi la procédure plus tranquille. Alors, beaucoup de Palestiniens sont obligés de travailler en Israël ou dans notre pays juste pour se vivre parce que l'économie ici était complètement détruite. Juste un petit point. Ici, à Beth-Sorour, à Bethlehem, l'économie s'est basée sur le tourisme et le Noël, c'est un temps très important. Mais à cause de la couvre de feu, c'est complètement vide ici. Il n'y a pas d'économie. En tout cas, beaucoup de Palestiniennes, alors, sont obligées de travailler dans Israël. Un travailleur qui s'appelle Jihad Abu Eid a travaillé en Israël illégalement. Il était arrêté par les Israéliens. Et normalement, on est déporté dans une journée, vous êtes retourné dans ton village. Mais comme tu as dit, parce qu'il a marié une Jordanienne, les Israéliens essayent de lui déporter, pas à son village en Palestine, mais en Jordan. C'est un processus de déraciner les Palestiniens. Dans les 6 derniers mois, il est resté en prison, sans accusation, sauf qu'il est quelqu'un qui essaie de revendiquer son droit d'être un Palestinien. Il est rendu à la cour de Tel Aviv et le juge là-bas a décidé, oui, il pouvait toujours rester en prison. Pour 6 mois. Alors, il attend son audience devant le cours suprême d'Israël où ils vont essayer de revendiquer son droit d'être un Palestinien. Mm-hmm. Mais selon les documents que beaucoup des avocats de droits humains ici ont trouvés, il y a entre 50 et 60 000 Palestiniens que les Israéliens considèrent comme des illégaux, des faux Palestiniens, parce qu'ils ont marié un Jordanien. Parce qu'ils ont travaillé en Liban, ou en Jordan, ou en Égypte, ou dans un autre pays, pour plusieurs raisons. C'est une façon de faire du nettoyage ethnique, mais tranquillement. Et ça, c'est notre façon de voir la lutte ici. Mm-hmm. Et il y a des personnes qui luttent dans les villages, dans les villes, comme Jenin, comme Beth-Sorour, comme Bethlehem, comme Tout-Karem, mais il y a aussi le monde comme ce travailleur, Jihad Abu Eid. Il est dans une prison israélienne, qui revendique devant un cour pour établir son identité palestinienne. Et comme son avocat a dit, j'ai parlé avec elle, c'est un avocat israélien, c'est une histoire typiquement palestinienne.
Oui. Jaggi, est-ce que tu peux nous parler un peu de la deuxième intifada? On a l'impression qu'il y a eu toute une période de très, très violente. Maintenant, on a l'impression, je ne sais pas si c'est une vraie ou fausse impression, mais en tout cas, on a l'impression que c'est en train de devenir plus calme, qu'il y a un changement dans la politique de Sharon, ou en tout cas, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Mais avec les personnes palestiniennes avec qui j'ai parlé, il y a une analyse plus ou moins qui est le consensus. L'analyse, c'est que la première intifada, c'est vraiment une intifada de base, où tout le monde a participé, où tous les Palestiniens ils ont prendre ça à cœur, tu vois, et ils ont participé. Et cette intifada a été complètement trahie par Yasser Arafat et les autorités palestiniennes avec les accords de Oslo. Puis, avec la deuxième intifada qui a commencé avec la visite de Sharon, à la mosque à Jérusalem en septembre 2000. La deuxième intifada a commencé comme une chose de base, comme le premier, mais c'est rendu maintenant pas une chose généralisée. C'est vraiment une affaire de résistance tranquille, mais vraiment une affaire dans les mains des groupes armés. Et ça ne permettra pas la participation en masse des Palestiniennes de résister de toute façon. Ça, c'est la situation. Et ce que le mouvement de solidarité internationale essaie de faire, c'est de recréer une résistance civile en masse. Parce que maintenant, c'est pas une résistance en masse. C'est sûr que le monde appuie la résistance. Quand il y a une opération contre les Israéliens, le monde ici appuie ça, tu vois. Ça, c'est pas le problème, mais le monde participe pas en masse. Et ça, c'est le défi maintenant avec la deuxième intifada. Et c'est sûr que la répression des Israéliens a fait quelque chose. C'est sûr que la destruction complète de l'économie palestinienne, c'est aussi quelque chose. C'est difficile de résister quand vous ne pouvez pas même manger. C'est sûr aussi que il manque une participation en masse comme la première intifada.
Dis-moi aussi, il y a des élections qui s'en viennent bientôt en Israël. Quelles sont les perspectives? Quelles sont les attentes, si on veut, là, des Palestiniens que tu côtoies de façon quotidienne? Est-ce qu'ils craignent un durcissement encore du gouvernement israélien ou ils se disent que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas grand-chose à espérer de ce côté-là?
Je pense que pour la plupart des Palestiniens avec qui j'ai parlé, et n'oubliez pas que je ne parle pas avec les politiciens, je parle avec les militants de base. Ils pensent que les élections, ça fait rien.
Ouais.
Ça fait complètement rien. Parce que si c'est le parti travailliste de gauche ou si c'est le parti Likoud de droite, c'est la même affaire. C'est le parti travailliste de gauche qui a signé les accords de Oslo, qui était vu comme une trahison par les Palestiniens. C'est le parti travailleur de gauche de Ehud Barak qui a construit le plus grand nombre de colonies en Palestine. Et puis, avec Sharon, qu'est-ce que je peux dire? Sharon est un criminel de guerre, quelqu'un qui est impliqué directement avec le massacre des Palestiniens.
Oui.
Alors, ça fait rien, complètement rien pour eux. Si vous parlez avec les politiciens palestiniens, ils disent, garde avec une partie travailliste, peut-être que c'est meilleur, etc., etc. Mais c'est la même trahison, la même collaboration qu'ils ont fait avec Oslo, les accords d'Oslo. Et honnêtement, les personnes avec qui je parle, et c'est pas nécessairement les personnes d'extrême gauche, pas du tout, c'est juste les personnes normales qui n'ont pas une identification politique très claire. Pour eux, les élections, c'est rien.
Mm-hmm.
Une autre chose que je peux dire, c'est que comme un observateur pas palestinien, pas israélien, un observateur étranger, je peux dire qu'il y a beaucoup des éléments d'élections israéliennes qui sont très, très troublants. Par exemple, les partis de droite qui deviennent plus en plus mainstream, qui parlent de l'idée de transfert, c'est-à-dire l'expulsion en masse des Palestiniens. Ça, c'est pour eux la nouvelle solution. Il parle aussi d'annexation, c'est-à-dire il y a certaines concentrations de colonies dans les territoires occupés, et il dit, garde, la solution pour ça, c'est d'annexer, point. Et je parle pas de parti de droite, je parle de parti de centre, le parti séculaire, comme Shinui, un parti qui gagne beaucoup de voix, qui commence à gagner beaucoup de votes dans les sondages. Il parle d'annexer ces territoires. Alors, il y a beaucoup des éléments très, très troublants dans ces élections qui montrent que l'électorat israélien, c'est plus ou plus à droite. Je dis ça au même temps que je constate qu'il existe toujours le mouvement de paix qui est fort, mais malheureusement, ils n'ont pas assez de pouvoir pour changer le politique dans le Knesset d'Israël.
Et toujours pour ce qui est du bras politique, mais de l'autre côté de la clôture, tu parlais un peu plus tôt là, des dissensions qui existaient au sein de la résistance palestinienne. Mais pour ce qui est de la confiance à l'autorité palestinienne et à Yasser Arafat, est-ce que ça évolue tranquillement? Est-ce que de plus en plus les gens admettent que l'autorité palestinienne de Yasser Arafat n'est pas seulement corrompue, mais qui peut-être constitue une entrave à la résistance?
C'est sûr qu'il y a ce point de vue avec les personnes avec qui je parle, et c'est pas justement avec qui je parle, mais j'ai une certaine perspective avant que je visite ici, et c'est clair. Le monde voit ça comme une entrave, mais en même temps, le monde sent un peu peur de jouer le jeu de les Israéliens, les États-Unis, qui essaient de rendre Yasser Arafat comme le bouc émissaire pour tout ce qui est mal avec la procédure de la paix. Et alors, le monde sent un peu mal à l'aise à jouer ce jeu, tu vois, parce que c'est clair qu'il contacte, il est corrompu, etc., etc., mais quand même, il est toujours un symbole de résistance aussi. Et quand il est empêché de voyager librement en Palestine, il va être empêché encore pour la deuxième année de Bethléem pendant de visiter Bethléem pendant Noël. Le monde, regarde lui comme un. Alors, il y a des éléments très complexes ici. C'est difficile de parler de ces complexités dans quelques minutes.
Ouais. Ok, Jaggi. Alors, on va terminer cette entrevue. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux ajouter rapidement.
Non, c'est juste, j'espère, dans les prochaines semaines, de faire plus de reportages avec les Palestiniennes. Comme j'ai dit, je suis toujours dans les territoires occupés. Ça, c'était le bout de ma visite, de visiter les territoires ici. J'ai défié les règles, les ordres de gouvernement israélien. Mais comme j'ai dit, pour moi, la chose plus importante, c'était pas les ordres d'un pays occupant le pays oppresseur, c'est plus les idées des Palestiniennes. Et comme j'ai dit, ils m'ont réinvité après que le cours d'Israël a fait une décision. Alors, j'étais accueilli ici par le groupe palestinien et je vais faire plus de reportages dans les prochaines semaines, c'est sûr.
Ok, ben nous, ça nous fera plaisir de te reparler la semaine prochaine.
Ok,
ben merci beaucoup, Jaggi.
Merci, Jaggi.
Ciao, Patrick. Ciao, Roberto.
Ciao, joyeux Noël.
Oui, toi aussi.
Ciao.